Alors, bienvenue à tous. Nous allons passer un petit moment dans les évangiles, dans les lettres, la lettre aux Hébreux et aussi un peu de temps dans l'Ancien Testament. Nous arrivons à un moment clé dans ce livre qui est cette lettre qui est la lettre aux Hébreux. Il faut savoir quand nous lisons cette lettre écrite aux chrétiens qu'il y a c'est l'aboutissement de toute une promesse qui a été faite par Dieu à la fin d'un long parcours de Dieu avec Israël. Vous vous souvenez que il y a le prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 31, que Jérémie c'est le prophète qui était présent quand les Babyloniens sont venus et détruire Jérusalem. C'était lui le prophète qui a souffert avec le peuple, avec patience, avec persévérance. Et voici la promesse que Dieu a faite à travers Jérémie, dans Jérémie chapitre 31, le verset 31. Voici ce qu'il dit. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel. Donc c'est Dieu lui-même qui parle. Oui, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec le Père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois le maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ce jour-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et l'écrirai sur le cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous voyons encore dans ce passage qu'on a lu il y a 2 semaines en arrière, nous remarquons que Dieu promet une nouvelle alliance qui ne sera pas, il dit clairement, comme la première alliance qu'il avait conclue avec le peuple quand ils ont quitté l'Égypte, c'est-à-dire à travers la première Pâque, à travers le traversée de la mer et à travers tout ce que Dieu a fait pour eux dans le désert. Il dit que c'est une nouvelle alliance. Il va mettre la loi au-dedans d'eux et écrire sur leur cœur. Il sera leur Dieu et ils seront son peuple. Deuxième chose que nous remarquons, c'est qu'en deuxième Pâque que Justin vient de mentionner, à cette Pâque, Jésus dit, en prenant la coupe, vous vous souvenez, c'est la coupe d'une nouvelle alliance. C'est ce sang d'une nouvelle alliance, que dans notre tête nous dit tout de suite, alors Jésus est en train d'accomplir la promesse de Jérémie 31, c'est-à-dire Dieu établit une nouvelle alliance avec son peuple et avec tous les peuples qui viennent à lui à travers le sang qu'il offre. Quand Jésus vient offrir son sang sur la croix, c'est le début d'une nouvelle alliance avec son peuple. Quelque chose qui est écrit non sur des pierres, comme les 10 commandements, mais écrit sur le cœur des hommes. Okay? Le cœur des hommes. Et donc, c'est important de savoir cela, parce que nous lisons la Bible et qu'est-ce que nous apprenons? Quand nous lisons la Bible, par exemple, Jésus parle avec ses disciples, il va dire, après sa résurrection, il va dire que toute la loi et les prophètes et les psaumes parle de moi. Il va dire que le centre de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ lui-même, celui qui accomplit toutes choses dans la volonté de Dieu. Il va aller jusqu'au tel point que dans Luc chapitre 24, quand il rencontre les deux apôtres qui vont à Emmaüs, les deux disciples à Emmaüs, il va dire, mais où est votre foi, homme de si peu de foi? Vous n'avez rien compris que... Et il annonce ce dessein de Dieu qui se trouve dans les prophètes et autres. Alors, c'est avec cela en tête que les chrétiens du premier siècle, grâce à l'enseignement de Jésus, grâce à la prédication des apôtres et grâce à l'Esprit de Dieu, ont pu se rendre compte que l'Ancien Testament, donc cette première alliance, est une ombre de ce que c'est la nouvelle alliance que nous avons dans le sang de Christ qu'il a annoncé. Et cela est important pour nous quand nous lisons le texte que nous avons. Donc, je vous invite à chercher Hébreux chapitre 9, le verset 1 à 14, en sachant que Nous avons ici Jérémie, chapitre 31, en tête. Nous avons aussi Luc 20, 21, ou 22, pardon, où Jésus prend le sang, disons, il parle du sang de l'alliance qui est donné pour tous. Donc voilà ce que nous avons au chapitre 9, le verset 1. La première alliance avait, elle aussi, ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé dans la première partie, appelée le lieu saint. Se trouvaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis derrière le second voile se trouvait la partie appelée saint des saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Tout cela, ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience, cela qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions, et imposé jusqu'au temps de réforme. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu la rédemption éternelle. Car si le sang de bouc et de taureau est la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Bon, dans notre texte, donc, il parle d'une autre alliance. Il a parlé de la première alliance et d'une nouvelle alliance qui est là. Et il va parler donc de tabernacle. Vous savez, le tabernacle a existé jusqu'au temps de David. Et puis, quand Salomon et son fils a pris le règne, donc Dieu lui avait donné l'autorité de construire un temple à Jérusalem. Tabernacle veut dire simplement l'idée de temple, de tente, lieu de demeure où Dieu manifestait sa présence, soit par la nuée, soit par une flamme. Et c'était divisé en deux parties. Vous pouvez lire, si vous voulez, l'Exode, et il y a des descriptions très détaillées de cela. Il parle de combien d'anneaux on devait avoir, de combien de coudées, c'est-à-dire 45 centimètres, chaque partie devait être, les stands, les bases des stands, à quoi ça devrait ressembler, etc. C'était vraiment des instructions très importantes à tel point que on a pu reconstruire des temples ou des tabernacles, excusez-moi, tabernacles aujourd'hui, qui ressemblent à cela. Mais je vous ai dit, je fais juste un schéma pour regarder. Nous remarquons ici qu'il y avait une partie qui s'appelle donc direction est, c'est l'entrée, okay? Très important. Ils avaient toujours la tente faisait toujours la même direction. Et depuis l'est, on pouvait entrer, les prêtres pouvaient entrer, et cette première partie s'appelait le lieu saint. Dans ce lieu saint, nous avons donc le chandelier et nous avons la table avec dessus des pains de proposition. Et ces pains de proposition, c'était des pains que les prêtres pouvaient manger, mais je crois pas que ce soit très bon parce qu'ils devaient attendre quoi, 7 jours avant de les manger. Donc ils les mettaient et puis c'est le 8e jour qu'on les remplaçait, ils les mangeaient. Donc c'est pas si c'était que les prêtres qui avaient très faim, peut-être les prêtres débutants qui devaient manger cela et les autres ils ont fait autrement. Mais notons bien, il y avait une table qui s'appelait la table dépend de proposition. Et puis ici, on a notre chandelier avec les sept coupes, avec les flammes dedans, dessus, qui étaient à ce côté. Il y avait aussi donc un autel qui était pour les parfums. Et d'habitude, ça devait être juste ici devant le rideau. Dans notre lettre, on parle de cela qui est à l'intérieur et on ne comprend pas exactement pourquoi c'est mis dans l'intérieur ici, dans l'endroit qu'on appelle Saint des Saints. Les prêtres pouvaient entrer dans le service tout le jour ici. N'est-il pas intéressant, je trouve en tout cas, n'est-il pas intéressant que Jésus lui-même a dit qu'il est quoi? Le pain de vie descendu du ciel. Bon, en parlant de la manne, mais dans le temple, on a quoi? Une table avec des pains de proposition et que Jésus lui-même a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Okay? Et c'est très intéressant parce que dans le même évangile, selon Jean, Jésus dit que il est le temple, son corps c'est le temple. Et il dit détruire ce temple et en 3 jours. Okay? Et que Jésus est aussi venu et il dit au Jean chapitre 1, celui qui est venu pour être un tabernacle parmi nous, c'est-à-dire de vivre, de demeurer avec nous. Ici, à l'intérieur, dans l'endroit qui s'appelait Saint des Saints, divisé, donc séparé par un rideau, il y avait un endroit qui était la moitié de cette partie-ci, okay? Et il y avait là-dedans 2 choses, donc il parle l'Arche de l'Alliance et puis cet autel d'encens qui est là. L'Arche de l'Alliance était couvert par un couvercle qui s'appelle propitiatoire. Okay? Et là, il y avait des chérubins avec les ailes qui couvraient cela et s'appelait le siège de Dieu. C'est-à-dire Dieu était entronisé, c'était là le trône de Dieu manifesté de cette façon. À l'intérieur, nous avons remarqué qu'il y avait 3 choses. Il y avait une urne en or avec de la manne dedans. Il y avait le bâton d'Aaron, et puis troisièmement, il y avait la loi, les 10 commandements, 12 commandements. Ça, c'était, ouais, les hommes en ont ajouté 2 peut-être, mais il y avait les 10 commandements qui étaient là-dedans. Donc, nous remarquons qu'il y avait ces 3 choses. Disons la manne pour soutenir le peuple de Dieu. Okay? Il y avait la loi de Dieu pour guider le peuple de Dieu, et puis le bâton d'Aaron qui était pour libérer le peuple de Dieu, parce que c'est ce bâton qui a utilisé dans les plaies, etc. Vous vous souvenez de toutes ces choses. C'est aussi le bâton qui a fleuri et qui a montré que Aaron était le souverain prêtre de Dieu, que Dieu avait choisi Aaron. Donc c'est comme cela que ça s'est passé. Juste pour vous dire, ça durait jusqu'au moment de David et ces choses ont été transposées ou transportées après dans le temple de Salomon. Et finalement, toutes ces choses étaient perdues, toutes ces choses étaient perdues, spécialement l'Arche de l'Alliance, quand les Babyloniens ont tout pris. Okay? Et peut-être même avant, parce qu'il semble qu'il y avait des Égyptiens. À tel point, quand Hérode, donc quand le peuple a reconstruit le temple, et Hérode a fait une reconstruction de la reconstruction du temple, quand il n'y avait absolument rien qui se trouvait dans l'endroit Saint des Saints. Il n'y avait rien. Parce que l'Arche de l'Alliance était loin depuis longtemps. Par contre, ils avaient le menorah, donc qui était là, ils avaient ces autres choses. Donc voilà ce que nous remarquons en regardant ces différentes choses. Je crois que j'ai tout dit. Ce qu'il faut savoir, que les sacrificateurs pouvaient venir dans l'endroit Saint tout le temps qu'il voulait, mais c'est seulement une fois par année, okay, le jour de grand pardon, que le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu saint des saints, donc passer par le rideau, avec le sang de sacrifice pour lui-même et pour le peuple. Et à ce moment-là, il pouvait entrer dans cet endroit qui représentait la présence de Dieu. Nous remarquons que en regardant cela, les chrétiens ont dit, dans l'Ancien Testament, on n'avait pas un accès réel à Dieu. Une fois par année, c'est pas un accès réel à Dieu. Il y avait toujours une séparation. Mais quand Christ est venu, cette séparation, donc, est éliminée. Et c'est intéressant à voir, n'est-ce pas? Quand Jésus meurt sur la croix, il crie, tout est fini, tout est fini, il dit. Et qu'est-ce qui se passe? Le rideau dans le temple, quoi? Se déchire de haut en bas. C'est-à-dire, il y a maintenant une ouverture vers l'intérieur pour être avec, en communion avec Dieu, directement. La nouvelle alliance est établie en Christ Jésus. Et donc, on ne pouvait pas s'empêcher de regarder l'Ancien Testament et de voir tous ces symboles, ces paraboles de pardon, de rédemption, de délivrance, toutes ces choses dans la personne de Jésus-Christ. À tel point, regardez le verset 8, chapitre 14, le verset 8. Il dit, donc, « Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection. Sous le rapport de la conscience, cela, celui qui rend ce culte. Ce sont là les ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons et des diverses ablutions et imposées jusqu'à un temps de réforme. » Bon. Est-ce que j'ai dit quoi?
14.
Oh, excusez-moi, je voulais dire 9, 14, excusez-moi. Pardon, je voulais dire 9, 8 et 9, 9 et 9, 10. Excusez-moi, c'est le texte qu'on a lu avant. Alors, notons bien, il dit, c'est une figure, pour le temps, c'est le Saint-Esprit qui montrait ces différentes choses. C'est le Saint-Esprit. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit a montré ces choses? À quel moment le Saint-Esprit a-t-il montré que le tabernacle parlait du fait qu'il n'y avait pas un accès et que maintenant, en Jésus, il y a un accès? Bon, Jésus dit très clairement dans Jean chapitre 14, alors là, c'est le 14 peut-être, Jean chapitre 14, les versets 25 et 26, il dit, « Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Il dit très clairement, Jésus dit à ses apôtres que le Saint-Esprit allait venir et allait clarifier toutes ces choses. Et c'est, pour moi, c'est très intéressant que Jésus dit dans Jean chapitre 2, il dit que je suis le temple. Il dit, mon corps est le temple qui vous amène dans la présence de Dieu. Et c'est très intéressant que l'écrivain aux Hébreux dit exactement la même chose, que nous entrons dans la présence de Dieu à travers le sang et le sacrifice de Jésus. Donc, le Saint des Saints était fermé, c'était pas ouvert dans l'Ancien Testament. Et tant que le premier tabernacle existait, Jésus, par contre, vous savez que Jésus a prédit la destruction du temple de Jérusalem. Il a dit, avant la fin de cette génération, il y aura la destruction de Jérusalem. Donc, pendant que cela existait, il n'y avait ce système de culte existait, il n'y avait pas un vrai accès. Il fallait que Christ lui-même entre dans le sanctuaire avec son propre sang, l'offrir pour que tous puissent avoir accès à lui. Les dons ne mènent pas à la perfection, la conscience. Donc, les gens offraient des sacrifices, mais ils n'étaient pas purifiés dans leur conscience. Les ordonnances charnelles, à boisson, ablution, toutes ces choses, ne rendaient pas les gens impurs non plus. Bon, mais où est-ce qu'il a trouvé cela, cet écrivain? Où est-ce qu'il a trouvé que les ordonnances charnelles étaient, ces ordonnances étaient des ordonnances charnelles, que les boissons, la nourriture et les ablutions n'ont pas pu rendre quelqu'un pur? Bon, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. C'est Jésus lui-même. Dans Marc chapitre 7, le verset 19, il y a des gens qui disent, mais pourquoi Jésus et toi et tes disciples ne vous faites pas des ablutions? Pourquoi vous vous lavez pas les mains? Okay? Et pourquoi vous faites ces choses? Et puis, notons bien, Marc 7, 19, donc nous lisons, « Car cela n'entre pas, donc la nourriture, n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. Jésus déclarait pur tous les aliments. » Tous les aliments. Et donc, Jésus savait bien que les aliments, les lois de l'aliment n'allaient pas rendre quelqu'un pur. Okay? Il dit, c'est pas ce qui entre dans la bouche, c'est ce qui sort qui fait cela. Et donc, l'écrivain aux Hébreux est simplement en train de prendre ce que l'Esprit a révélé aux disciples et nous les donner. Et notons bien le verset 9, donc on est toujours au chapitre 9, le verset 9. Merci à tous pour cela. Notons bien, il dit, c'est une figure pour le temps présent. Vous savez, le mot figure, c'est le mot parabole. C'est une parabole pour le temps présent. C'est-à-dire, Jésus n'entre pas dans un tabernacle terrestre, mais dans un tabernacle céleste, avec un sacrifice. C'est le sacrifice de son propre sang, okay, qui est là, et c'est lui qui purifie. Vous savez que Jésus lui-même devient un sacrifice pour nous qui nous libère de notre péché. La Bible appelle cela la rédemption, c'est d'être racheté. C'est-à-dire, Jésus a dit dans Marc chapitre 10, verset 45, vous vous souvenez, il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Bon, le mot payer un rançon veut dire racheter. C'est-à-dire, je me donne moi-même pour que le coupable soit délivré. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Et je commençais à penser à cela. Cette idée que Jésus n'entre pas dans le tabernacle terrestre, mais dans le tabernacle céleste, okay, pour faire cela. Et juste de me poser la question, est-ce que tu crois que vraiment il y a un tabernacle céleste physique quelque part? On discutait cela l'autre jour. Et c'est possible. Je crois que c'est une image, c'est l'idée d'entrer dans la présence de Dieu, okay, et qu'il nous donne cela. Mais c'est un peu comme le trône de Dieu. Est-ce qu'il y a vraiment une trône avec quatre pieds, avec de... Je crois que c'est plutôt une image. Mais on sait que on aura un corps ressuscité, un vrai corps ressuscité dans le céleste. Donc bon, je ne sais pas. Mais juste pour vous dire, ça fait réfléchir ces différentes choses. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez, que c'est que dans l'enseignement de Jésus et dans l'enseignement des apôtres, de tous les apôtres, il y a cette idée de rachat. Par exemple, Jean, l'évangile selon Jean. Première chose que nous apprenons, okay, il dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue en Christ Jésus. Donc, il fait une opposition, okay, Jean. Plus tard, il y a Jean-Baptiste qui voit Jésus. Et que dit-il? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Okay? L'agneau de Dieu qui ôte les péchés de Dieu. Bon, agneau de Dieu, ça nous fait penser à quoi? Un sacrifice. Un sacrifice où quelqu'un meurt, c'est-à-dire l'animal meurt pour le pardon des péchés. Okay? Plus tard, nous voyons au chapitre 10, Jésus dit, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Okay? Nous lisons plus tard, à un autre moment où Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel. Et il dit, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Il dit qu'il donne sa vie, sa chair comme vie du monde. Il dit plus tard, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de reprendre. Il dit, si le grain de blé ne tombe pas en terre, il ne peut pas pousser. Il dit, il est préférable qu'un seul, donc c'est le souverain sacrificateur qui dit, il est préférable qu'un seul meure pour le peuple. Et Jean dit, il était souverain sacrificateur et il prophétisait à ce moment-là. C'est-à-dire que Jésus meurt pour le peuple. J'ai dit, bon, ça c'est pas mal. Dans l'évangile. Mais après, on a Jean qui écrit des lettres. Et dans une des lettres, il dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2, il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire, c'est-à-dire sacrifice, pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Chapitre 2, le verset 12. Vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Chapitre 3, le verset 4. Le Seigneur est apparu pour ôter les péchés. 3:16. Il a donné sa vie pour nous. 1 Jean 4, 10. Il a envoyé son fils comme victime expiatoire. Donc, les apôtres sont continuellement dans cette idée que Jésus est le sacrifice parfait qui nous pardonne de nos péchés. Et que maintenant, grâce à lui, nous sommes quoi? Sous une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance nous donne un accès en Christ Jésus à Dieu tous les jours. Bon, si jamais vous êtes plus, vous voulez lire un peu plus cela, il y a aussi, il dit dans l'Ancien Testament, il y avait une purification qui avait lieu à travers une génisse. Okay? Et si jamais vous voulez lire cela, vous pouvez lire dans Nombre chapitre 19, il parle de cela. Mais c'est les cendres de cette génisse qui étaient utilisées pour annoncer ou pour purifier les lépreux qui avaient été guéris. Okay? Et cela, ce qui se passait. Et il dit, si cela peut guérir les gens ou purifier les gens, excusez-moi, alors beaucoup plus Jésus-Christ qui est comme ça. Bon, nous apprenons que Christ est un souverain sacrificateur. Il parle des biens à venir qui sont meilleurs que les anciennes choses, qu'il a traversé un tabernacle qui est plus grand que le tabernacle terrestre, un tabernacle qui n'est pas construit de la main des hommes, mais qui n'est pas de notre création, mais qui nous amène dans la présence de Dieu. Et il dit, il a fait cela avec son propre sang, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Quel grand privilège nous avons de vivre sous une alliance qui nous promet le pardon, une alliance qui nous promet la présence de Dieu, une alliance qui nous appelle à avoir les choses écrites totalement sur notre cœur, avec une vie qui répond à cela par l'obéissance, par une vie qui glorifie Dieu dans toutes ces choses. Et donc, il dit, ceci est notre espérance. Nous avons un maître qui nous a rachetés et nous avons un maître qui nous invite à vivre avec lui.